voix nue. Toute cette semaine, Nejma Bouakra rencontre Nicole El-Karoui. Ce soir, des maths pour les filles, rien que pour les filles.
Nicole El-Karoui est mathématicienne. Et si l'esprit scientifique n'est pas l'apanage des hommes, longtemps les mathématiciennes ne furent pas à la fête. D'Hypatie d'Alexandrie, qui mourut en martyr, à Émilie du Châtelet, grande amie de Voltaire, qui au siècle des Lumières salua son intelligence en ces termes « un grand homme qui n'a le défaut que d'être femme ». La marquise, spécialiste de Newton, à qui l'on refusait l'entrée de l'Académie des sciences, exclusivement et jalousement mâle, s'obstina, quitte à se déguiser en homme, afin de poursuivre ses travaux. Sans oublier Sophie Germain, autre consoeur mathématicienne, qui, un siècle plus tard, passionnée comme vous par les travaux de Gauss, eh bien se voit refuser l'entrée de l'école polytechnique. École prestigieuse que vous connaissez bien, puisque vous y avez enseigné, Nicole El-Karoui, les portes de Polytechnique s'étant ouvertes aux femmes en 1972. Nous avons évoqué votre enfance et votre goût de l'abstraction, votre liberté de jugement et votre autonomie de pensée. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur votre audace et votre détermination. Bonsoir, Nicole El-Karoui.
Bonsoir, Nejma.
Nicole El-Karoui, votre parcours a certainement été moins semé d'embûches que celui de vos illustres prédécesseurs mathématiciennes.
Ça ne fait aucun doute. D'abord, l'accès à l'éducation, même s'il n'était pas généralisé à toutes les jeunes filles à mon époque, était quand même largement acquis et n'a fait que de se développer ensuite. Par ailleurs, malgré tout, de rentrer en classe préparatoire scientifique, comme je l'ai fait, ou d'ailleurs j'avais deux de mes frères, n'était pas une évidence, on va dire, sociale. Et maman aurait sans doute trouvé que j'aurais mieux fait de faire médecine. Ça paraissait plus naturel pour une femme. J'aimais les mathématiques, j'avais plutôt hésité entre la philosophie et les mathématiques, et donc pour moi il n'y avait pas de vrai problème dans cette orientation-là.
Mais quel regard portez-vous sur ces femmes mathématiciennes des siècles précédents ? Certaines ont consacré leur vie aux mathématiques sans que leurs travaux ne soient reconnus à leur juste valeur.
Elles ont consacré leur vie à la science, mais elles ont dépassé toutes les conventions sociales. C'est des femmes exceptionnelles qui ont tracé des ouvertures. Alors, reconnu, pas reconnu, quand on est pionnière, en tout cas la reconnaissance est rarement standard et dans l'instant. J'ai récemment été à un concert où on parlait d'Hélène de Montgerau et de son rôle, une musicienne qui a ouvert toute la musique classique et dont qui a formé implicitement énormément de gens et qui est exactement dans cette veine-là. C'est-à-dire, elle a eu sa vie en chantant la Marseillaise, parce qu'elle devait être exécutée, mais elle est aussi parmi ces femmes qui ont ouvert, qui ont eu aussi beaucoup de liberté de corps, d'esprit, extrêmement curieuses, et souvent des esprits scientifiques et autres. Elles avaient toujours de grandes cultures et tout. Donc c'est des femmes admirables dont on ne parle pas assez. Une des choses qui m'a beaucoup marquée, pour lesquelles souvent j'ai accepté de parler un peu publiquement, c'était que c'est extrêmement important d'avoir des images de gens auxquels on peut s'identifier. Et je pense que pour certaines jeunes filles, d'avoir une image de femme avec des enfants qui n'a pas l'air trop spéciale comme mathématicienne, c'est une chose importante parce qu'on se dit c'est possible. Et c'est très important d'avoir des gens qui vous disent à certains moments c'est possible d'aller plus loin. Ces femmes ont été au-delà d'elles-mêmes et ont ouvert c'est une admiration évidemment extrêmement importante. Et en plus, elles étaient extrêmement brillantes scientifiquement.
Donc vous êtes en classe préparatoire et on se demande un petit peu pourquoi vous appréciez autant les mathématiques, c'est ça ? Et vous n'imaginiez pas pouvoir faire autre chose que cela, les mathématiques, ou vous étiez simplement si passionnée que vous ne regardiez pas du tout autour ?
En terminale, j'ai choisi de faire les mathématiques contre la philo parce que je m'ennuyais moins en faisant 6 heures de maths pour un problème que 6 heures de dissertation. Voilà, ça a été le critère. Après, en maths sup, donc première année de classe préparatoire, on apprend les maths modernes. Et tout d'un coup, là, je découvre que les mathématiques, c'est quelque chose. La chose que j'attendais en un certain sens. C'est-à-dire qu'il y a une unité, qu'il y a des structures communes entre des aspects de l'analyse ou l'algèbre qui ont l'air complètement opposés, etc. Et cette dimension-là est vraiment la première révélation mathématique qu'on peut avoir. Sauf qu'en classe préparatoire, nous sommes 4 filles, dont 3 filles de ma classe du lycée, ce qui est plutôt rare, et 45 garçons qui, quand même, en gros, passent leur temps à nous expliquer que parce qu'on est des filles, on ne peut pas être des bonnes élèves, même si les résultats montrent tout l'inverse. Et donc ça, ça a été une chose qui, pour moi, a été toujours assez difficile à supporter, parce qu'en fait, je n'étais pas du tout assurée d'être dans la bonne voie. C'était quand même une grande interrogation parce que quand même l'environnement, le milieu extérieur n'était pas du tout hostile mais n'était pas non plus un support absolument inconditionnel. Donc il fallait s'en tirer un peu toute seule dans cette voie-là.
Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait persévérer ? Voilà. Vos résultats, le fait de voir des résultats, d'observer que vous progressez ?
Dans la classe, on ne savait pas, les filles ne pouvaient pas rentrer à Polytechnique, mais j'avais le niveau de mes camarades qui sont rentrés à Polytechnique, ça je le savais. Donc, mais je ne savais pas quel était le niveau des écoles normales supérieures de jeunes filles, puisque les écoles normales n'étaient pas mixtes à ce moment-là. Et donc on ne savait pas si on avait des chances de pouvoir rentrer dans ces structures ou si on devait rentrer dans les écoles d'ingénieurs comme d'autres. C'est sûr que la vision école normale m'intéressait plus et pas tellement pour les questions d'enseignement, mais plus parce que ça permettait, ça avait l'air d'ouvrir beaucoup de choses. Cette période, c'est 64, hein, quand je rentre en 64, donc c'est peu avant 68, c'est une période où la vie étudiante est extrêmement animée. Hein, et quand je vais être à Paris à l'école normale, je vais beaucoup participer à cette vie étudiante.
Est-ce que la non-mixité, donc là, que vous retrouvez, finalement, vous l'avez connue enfant, vous la retrouvez à l'école normale de Sèvres, est-ce que cela vous est bénéfique, cette non-mixité ?
Bon, enfin, fondamentalement, en dehors des 3 années que j'ai passées en classe préparatoire, je n'ai vécu que dans des structures de filles. Et les classes préparatoires, c'était pas mixte. C'était 45 garçons, 4 filles, donc la règle du jeu n'était pas équitable. Donc on ne s'est jamais vraiment posé la question de la mixité. Par contre, d'être interne à 20 ans, comme on l'était dans les écoles normales, ça a été une expérience super. Parce qu'on découvre d'autres filles, d'autres... Même en France, il y a plein de cultures différentes et aussi... C'est une période où il s'est passé énormément de choses partout autour de nous, donc on a fait des maths et du reste. La politique, du syndicalisme.
Dans le cadre étudiant.
Voilà. Ouais. En liaison avec nos camarades de l'école normale de la rue d'Ulm, parce qu'en fait, notre vie était ensemble pour les cours, pour beaucoup de choses.
Qu'est-ce que cela change pour vous, Nicole El-Karoui, que cette école normale supérieure non mixte, celle de Sèvres, ait été remplacée par l'école normale supérieure mixte en 81 ?
Donc ça, c'est 68. Moi, en 79, je deviens... Donc, je passe professeur très jeune. Je deviens responsable des études à l'école normale de Fontenay-aux-Roses pour comprendre, il y en a deux, de formations plutôt orientées dans les lycées classiques et des formations plutôt orientées autour des écoles normales d'instituteurs. Fontenay-aux-Roses fait partie de la filière qui, il y a longtemps, venait des écoles normales d'instituteurs. Donc en 81, la ministre des Droits de la Femme, pour des raisons d'égalité, décide que les écoles normales supérieures doivent être mixtes. Et en particulier, l'école normale de Sèvres, enfin celle où je venais, la directrice savait que c'était la mort des mathématiciennes, et donc a lutté contre ça très énergiquement, mais pour nous, ça n'a pas été possible, et donc le concours 81 a été mixte. Mais on savait que sous la forme du concours, sur lequel rien n'avait été repensé, comment est-ce qu'on sélectionne les filles, à quel moment, de quelle manière, ça, c'était même pas une question qu'on pouvait envisager. C'était évident que le modèle des classes préparatoires de garçons était le bon modèle de sélection. Et donc, nous, on savait qu'on allait perdre toutes les filles. Et là, ça a été au-delà de toute espérance, puisque je suis passée de 17 filles à 17 garçons dans la promotion dont je m'occupais. Depuis, les filles de l'école normale de Sèvres, de jeunes filles, est devenue mixte avec la rue d'Ulm. Il reste 3 ou 4 filles dans ces structures et nos écoles qui sont parties à Lyon, elles ont un tout petit peu plus de filles, 5 ou 6.
Comment expliquez-vous ce remplacement-là ?
C'est un exemple typique de discrimination positive, si on veut dire, parce que pour les filles, rentrer dans une école normale supérieure de filles, c'était plus facile que pour les garçons. Il y avait moins de candidates et en plus, elles étaient classées entre elles, ce qui veut dire que leur qualité de mathématicienne, enfin scientifique, était évaluée entre elles. Alors ça veut dire qu'elles ne rédigent pas, elles ne foncent pas. Il y a un certain nombre de choses qu'elles font de manière différente des garçons. Et en plus, personnellement, moi je pense que sélectionner des filles à 19-20 ans, comme on le faisait, ben, ça n'est pas le bon moment. Si vous voulez vraiment sélectionner les filles, il faut les sélectionner à 16-17 ans. Parce que la différence de maturité de 2 à 3 ans entre les filles et les garçons à ces âges-là était spectaculaire. À Fontenay, avec les filles, je passais mon temps à discuter de problèmes futurs, métaphysiques, etc. Avec les garçons, c'était super sympa. On n'avait pas de problèmes compliqués à résoudre. Beaucoup plus facile. Mais on sentait très bien que le mode de sélection n'était pas adapté. Mais tout ça, on ne peut pas en parler. Même maintenant, c'est fini.
Qu'est-ce qu'il faudrait comme système de sélection pour qu'il soit mieux ajusté ?
En particulier, changer l'âge. Si vous savez, ou vous changez les critères, ou vous changez l'âge. Si vous voulez leur faire des compétitions, vous les faites à 16-17 ans. Elles n'ont pas de problème de petits copains, de ce qu'elles vont devenir, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes références. Après, elles s'en moquent de la compétition. De toute façon, les filles sont moins compétitives en soi. C'est juste dommage. Ce qui se passait, c'est que finalement, ça marchait bien. On passait les mêmes épreuves. On était sélectionnés de manière différente. C'était plus facile, le spectre des niveaux était différent. Tout le monde avait un engagement avec l'État, de toute façon, celles qui étaient non pas dans le supérieur allaient enseigner dans le secondaire et souvent elles étaient extrêmement motivées pour le faire et l'ont fait très bien. Donc c'était gratuit. La France a été pendant des années le pays du monde qui avait le plus de profs universitaires femmes. Et quand on allait à un colloque, s'il y avait des femmes, c'était des Françaises. Alors, chercher les Allemandes, chercher les Américaines, chercher... On n'en trouvait pas. Et on a réussi à foutre ça en l'air, quoi. Enfin, bon, je ne sais.
À partir des années 80.
80, c'est ouais. Les droits de la... Oui, parce qu'il faut réfléchir à l'action du ministère des droits de la femme, qui en fait a rendu un certain nombre de choses égalitaires, mais ça s'est traduit par le fait que les avantages des femmes ont disparu. Elles travaillaient pas de nuit, après elles ont pu travailler de nuit, elles portaient pas des lourdes charges, après elles ont plus été protégées, etc. Donc l'égalité, elle s'est toujours faite sur la norme majoritaire.
Et vous avez tenté d'y remédier, vous, durant votre carrière d'enseignante ?
Bon, déjà, j'étais responsable des études à Fontenay-aux-Roses, donc moi je me suis battue, j'ai écrit à tous les profs femmes d'université, qui étaient toutes des sévriennes, il n'y en a pas une qui m'a répondu. Donc après ça, j'ai décidé que bon... Le milieu reproduisait lui-même sa vision des inégalités et tout, et donc c'était pas... Non, après j'ai essayé d'en parler quand j'étais professeure à l'école polytechnique, puisque moi je crois qu'on a été 2 professeurs femmes, au moins scientifiques, et en fait ça n'était plus du tout la question filles et garçons, c'était pas une question pour les filles. La grande différence, nous avions grandi dans des structures filles et garçons plus ou moins séparés. Les filles n'ont pas le sentiment que le système est inégalitaire. Et il faut attendre qu'elles sortent pour qu'elles s'en rendent compte. Mais à l'école polytechnique, il y a toujours 10 à 12% de cassés. Et quand il y en a un peu plus, c'est parce qu'on a des élèves étrangères. Et donc, on a des jeunes chinoises et des gens qui viennent des différents pays qui intègrent l'école.
Mais au final, vous, Nicole El-Karaoui, vous faites les mêmes mathématiques que les hommes.
Alors, est-ce que nous faisons les mêmes mathématiques que les hommes? Oui. Est-ce qu'on y croit de la même façon? Non. Moi, j'aurais jamais pu faire que des mathématiques, donc comme je n'ai pas renoncé à ce que j'aime, j'ai fait à la fois des mathématiques et 5 enfants, ça n'a pas toujours été de tout repos. Moi, j'avais besoin de cet aspect vital des enfants et tout. Enfin, pour moi, les deux étaient très complémentaires. Mais il faut quand même prendre bien conscience, et ça, je l'ai découvert quand moi, j'ai fait ma thèse, que en fait, les manières de faire les mathématiques, ça peut être extrêmement différent. Les mathématiciens, finalement, il n'y en a pas 3 pareils, on va dire. Il y en a qui sont...
Il y a une variété.
Très grande variété de manières de faire. Voilà. Est-ce que je suis une grande mathématicienne? Je ne crois pas. Au sens où je ne fais pas partie des gens super innovants, etc. Mais je suis une mathématicienne qui ne lâche pas tant qu'elle n'a pas tout compris. Et quand on cherche à modéliser le réel, c'est vraiment compliqué. Parce que finalement, on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à le modéliser, des choses comme ça. Mais y aller jusqu'au bout des choses, ça c'est ma passion. Bon. Mais souvent, ça demande beaucoup de mathématiques pour le faire. Hein. Mais il y a des gens qui vont être plus dans l'imagination ou la création à l'intérieur des mathématiques. Moi, c'est plutôt... À un moment, je me suis vue comme quelqu'un qui, en fait, a adoré jeter des passerelles, même en mathématiques. On fait des probas, c'était pas très bien vu. Les probas, c'est une manière de penser les choses. Il n'y a jamais de certitude au bout, quand même. On a toujours un intermédiaire pour penser le risque, pour... Ça n'est pas, on ne peut pas dire point final au bout. On sait que dès qu'on s'approchera du monde réel, etc., tout sera à recommencer. C'est ce que j'aime. S'il n'y avait pas eu de proba, je crois que je n'aurais pas fait de maths. Parce que les probabilités, elles contenaient en leur germe le questionnement. Mais toutes les mathématiques contiennent en leur germe le questionnement. C'est cette manière que j'ai de le dire, qui les probabilités étaient les plus suspectes d'être très ambiguës.
En face de l'école normale supérieure, donc nous faisons un petit pas en arrière, hein, non mixte, se trouve, je crois, une maison pour étudiants tunisiens. C'est pratiquement la rue d'en face.
L'école normale supérieure est boulevard Jourdan, et en face, il y a la cité internationale. Et donc, les filles sont du côté de l'hôpital, là. Et en face, il y a la cité internationale, dont la maison de Tunisie, qui est juste en face.
Juste, il suffit juste d'une rue pour que vous fassiez une rencontre importante. C'est cela ?
Voilà.
Quelle probabilité ?
La probabilité à peu près égale à 0, sauf qu'on habitait dans des lieux assez proches. Donc, mais bon, il fallait rencontrer un futur mari, un peu dragueur quand même, voilà, et se laisser faire ou séduire. Et ça, c'est aussi une nouvelle passerelle qui va s'ouvrir et... qui était tout aussi passionnante que beaucoup d'autres.
Vous rencontrez, donc finalement, grâce à cet environnement-là, un quartier étudiant, donc votre mari qui est tunisien, est-ce que vous partagez les mêmes centres d'intérêt ? Ou est-ce que c'est justement là encore, il faut tisser beaucoup de passerelles ?
Je pense qu'on est assez orthogonaux, comme on dirait en maths. C'est-à-dire que lui, il est économiste, mais vraiment d'un mode de pensée beaucoup plus littéraire, beaucoup moins rationnel, etc. Ben, peut-être que justement, ces différences, c'était aussi ce qui nous attirait d'une certaine manière. On avait un socle en commun qu'on n'a, je crois, jamais su très bien décrire, mais qui faisait qu'il y avait un lien structurel en dehors des discussions intellectuelles. Quoi.
Et finalement, avec quelqu'un qui pense différemment, il n'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort.
Ah, ça, c'est sûr, oui. C'est une grande leçon d'humilité, parce qu'il faut quand même admettre que des choses auxquelles on tient beaucoup, finalement, soient remises en cause, dans les deux sens. Mais en tout cas, bon, personnellement, je pense que ça a été une force incroyable pour nos enfants. Parce qu'on a quand même des enfants qui ont du coup une double culture, assez classique de ma part, plus surprenante pour eux de la part de mon mari, qui donc était tunisien, dont toute la famille était en Tunisie. Qui était une grande famille tunisienne. D'ailleurs, ils étaient 9 enfants, donc nous n'avons jamais réuni ensemble les deux familles complètes, parce que je pense qu'on était à 250, à 300. Mais tout d'un coup, il y a vraiment une découverte d'un autre monde. que beaucoup de choses du monde qui vivait tous les jours n'allaient pas de soi en Tunisie. Je me souviens de leur surprise de découvrir chez un ami paysan qu'il n'y avait pas l'électricité, qu'on tirait l'eau au puits par les chameaux et tout. Ces rencontres-là, pour moi, les ont beaucoup enrichies. Les enfants, je pense que le fait que les choses n'allaient pas de soi ailleurs, c'était une découverte intéressante pour eux.
Quand on dit autre culture, on dit une autre langue, on dit beaucoup de choses.
Oui. Moi, les langues, je suis très nulle. Donc, en fait, j'ai jamais appris vraiment l'arabe, parce qu'en plus, c'est une langue que je n'entends pas. Enfin, les sons très graves sont difficiles pour moi. Et on n'a jamais passé très longtemps en Tunisie. Assez pour l'apprendre. À un moment, on avait pensé y séjourner, mais ça ne s'est pas fait.
Mais vous rencontrez une chose importante, c'est-à-dire que le monde des hommes est séparé certaines heures de la journée de celui des femmes.
Enfin, d'abord, bizarrement, alors que je ne connaissais rien, ni au monde arabe, ni à l'Afrique du Nord, je découvre la Tunisie juste avant de me marier, et pour des raisons politiques, en fait, je n'y vais toute seule, donc je découvre la famille. Et là, je suis extrêmement étonnée de ce que je découvre, en fait. Il me semble que la structure du monde des femmes est très importante, mais aussi très... à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que le monde de France est dur pour ces femmes? Parce que là, on avait l'impression qu'il y avait... Entre elles. Le monde était séparé, mais entre elles, il y avait beaucoup plus de... connivence, de simplicité, d'initiation, de choses comme ça que moi j'avais jamais connues, mais ça vient aussi du fait que les familles protestantes étaient assez puritaines d'une certaine manière. Mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que si on regardait ça avec, sans écouter, sans voir, alors on pouvait raconter que des bêtises. Alors, je ne suis pas en train de dire que le monde des femmes en Tunisie est parfait, etc. Je dis qu'il y avait une autre logique, une grande, enfin, toute une cohérence, une culture, et que cette culture, évidemment, en ce moment, elle est plus difficile à vivre parce qu'on est dans une période de transition, mais qu'elle renvoyait quand même à des choses très profondes, et aussi une des choses qui m'ont beaucoup intéressée. Alors, peut-être en tant que femme, parce que c'est quelque chose que je ressens beaucoup, c'est la question de la langue. En Tunisie, on ne sait jamais dans quel monde on est. Enfin, on est maintenant, mais en même temps, on est hier et on est demain. Et il y a une sorte de mélange permanent des références, en quelque sorte, etc., qui m'intéressait beaucoup, d'autant plus que, en tant que... probabiliste, en fait, j'étudiais ce qu'on appelle les processus stochastiques, et sur lequel on fait le temps est un élément structurant, et alors là, on est rigide. Il y a le passé, présent, futur, on peut faire des allers-retours, mais ça ne marche pas dans cette représentation-là. Et là, tout d'un coup, les choses étaient plus floues, mais aussi plus intéressantes dans cette expression-là.
Donc votre mari vous ouvre finalement un monde qui est peut-être celui des femmes, et puis d'une autre durée, et puis un autre rapport
voilà.
Au temps.
On s'ennuie jamais.
Alors, s'il est question de temps, il me semble qu'il y a peut-être une question importante, qui est celle de... Vous nous dites que vous avez donc eu 5 enfants et vous continuez à travailler les mathématiques, et puis parfois aller en Tunisie. Alors, comment faites-vous?
Comment je fais?
Oui.
Un enfant, j'avais calculé que c'était 1 heure de sommeil de moins. Voilà. Donc il a resté plus tellement à la fin. Mais c'est un peu faux parce que il y a pas mal d'écart entre ma fille aînée, ma dernière fille, la 5e, et les aînés prenaient un peu moins de temps, même s'ils prenaient un temps quelquefois plus compliqué. Mais comment je fais? Je trie. Très vite, je sais ce qui est important, pas important. Je pense que c'est très important de jouer avec les enfants et tant pis si la maison est en foutoir. Je me fais un peu aider, mais les enfants ont grandi dans les structures françaises, la crèche, l'école, l'étude et tout. L'autre chose que j'avais, c'est que je ne serais pas coupable, contrairement à ce qu'on m'a insinué pour les 2 premiers, parce que la mentalité a beaucoup changé. J'avais besoin de travailler et j'avais besoin des enfants. J'avais pas mal d'énergie. Et donc, on allait essayer de gérer tout. D'abord, si ça avait eu des gros problèmes, on n'aurait pas eu 5 enfants, etc. Mais il fallait quand même réfléchir et faire en harmonie. Et c'était de les mettre sur des rails. Enfin, rails. Pour moi, la musique a été un élément très important à transmettre. Et bon, mon mari leur a transmis sa culture, sa religion, des choses comme ça. Ben, ça marchait, quoi. Enfin, peut-être qu'ils sont très malheureux, mais pour le moment, ils n'ont pas si mal réussi. Donc, tout va bien, quoi. Enfin, la réussite, c'était pas ça. Ce qui était important, c'était leur réussite personnelle à eux. Hein. Ce n'est pas les réussites scolaires ou académiques.
Même ils, si vont ça aide. Ils vont bien.
Ils vont bien. Oui, alors on a quand même 14 petits-enfants.
Hein. Ce temps... Le temps aussi, c'est le vôtre, votre temps à vous, pour eh bien, concevoir des mathématiques. Oui. Quand est-ce que vous travaillez ?
La nuit. Tout le temps. Donc moi, j'ai le sentiment d'avoir toujours travaillé tout le temps. C'est-à-dire, à la fin, il y a quand même des moments où j'aurais bien voulu être employée de bureau et rentrer le vendredi, même à 8h du soir, mais savoir qu'on avait un week-end sans avoir à travailler. Et comme avec 5 enfants, c'est ingérable quand même, honnêtement. Donc, pour faire le boulot, dès que vous avez une heure tranquille, il faut pouvoir le faire. Voilà. Et puis, la communauté autour, elle n'est pas du tout tendre. Hein, donc, les mathématiciens, ils ne sont pas... vous avez affaire comme tout le monde, point, c'est tout. C'est à juste titre, on ne cherche pas trop de trucs. Mais quand même, il y a des moments où c'est un peu injuste quand même.
Je vous ai lu, vous dites parfois, je calculais même en faisant la vaisselle.
Non, mais il faut juste savoir que quand on fait des maths, hein, moi, il y a 2 choses que je fais tout le temps dans ma tête, c'est des maths et de la musique. Je m'abstrais dans la musique et je m'abstrais dans les maths.
Vous jouez d'un instrument ?
Moi, j'ai fait du piano toute petite, enfin, depuis l'âge de 6 ans. Et puis surtout, j'ai été au conservatoire, ce qui nous faisait râler énormément quand on était petits, mais qui nous a donné des bases de solfège et de construction musicale très importantes. La musique, pour moi, ça tient une place assez particulière parce que, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime tellement parler. Et en fait, j'aime dans la musique le fait qu'on peut communiquer profondément sans les mots. J'ai un peu tendance à penser que les mots sont assez biaisés pour les femmes, qu'on n'a pas trop les moyens de trouver le mode d'expression qu'on souhaite. Et que pour moi, la musique, ça a été un moyen, un espace où, sans mots, on arrive à communiquer au-delà de manière particulière. Pour moi, c'est comme une sorte de gage, d'endroit de sécurité où, si le monde devient trop compliqué, vous avez toujours la musique. À Jussieu, Paris 6, dans le laboratoire, là, on a plusieurs musiciens de très grand talent.
Comment vous expliquez ça ?
Quand on fait des maths, d'une certaine manière, on reconstruit des langages que la musique a cette dimension-là. Alors pour moi, c'est d'éviter les mots, mais on est assez naturellement à l'aise. Voilà. Mais en tout cas, pour mes enfants, ce que je pensais, c'est que l'initiation, il faut une initiation, et que l'initiation était un cadeau, d'une certaine manière, pour l'avenir. C'est surtout les garçons chez moi qui ont profité de ça.
Merci, Nicole El-Khaoui.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Nicole El-Khaoui. À voix nue, réalisation Vincent Abouchard, prise de son Olivia Branger, attachée d'émission Claire Poinsignon, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.